Louis Pergaud, Le roman de Miro, Chien de chasse, première partie, chapitre 10. C'était un soir calme de fin d'automne. La nuit, à grands pas, venait, noircissant par degrés la chape bleue du ciel qui s'étoilait lentement. Pas un souffle de vent ne troublait la tiédeur enveloppante. Les fumées montaient calmes des cheminées, formant sur les carapaces bigarrées des toitures un léger manteau vaporeux. Les clarines tintaient joyeuses au cou des vaches qui rentraient des champs et marchaient d'une vive allure vers l'abreuvoir. Le marteau du forgeron Martin sonnait par intervalles sur l'enclume argentine, et tous ces bruits formait une rumeur paisible et chantante, qui était comme la respiration vigoureuse ou la saine émanation sonore du village. Point trop las de sa journée, les deux jambes de part et d'autre de l'enclume à chapeler les faux, fixées dans le vieux tronc de poirier sur lequel il était assis à califourchon, lisait le chasseur, lisait le braco, rêvait en fumant sa pipe. Plus fatigué, lui, d'une longue randonnée en plein champ, Miro s'était gravement assis sur son derrière et, impassible et clignant des yeux par moments, regardait son maître, tirant d'énormes bouffées de son éternel brûle-gueule. Un pas sonna dans le sentier de l'enclos et le chien, le reconnaissant pour celui d'un familier, se leva aussitôt, frétillant et aimable, pour saluer, en lui sautant à la poitrine et en lui léchant les mains, l'ami Philomène, maître de Bellone. « Salut, ma vieille broche !» s'exclama Lisée. « Je suis venue en bourrer une près de toi, histoire d'attendre le moment de la soupe, » expliqua Philomène, en choisissant pour siège le bout écarri d'une grosse poutre noircie par les intempéries et qui servait de banc rustique. Et les deux hommes se mirent à deviser des travaux de la saison, du blé qu'on commençait à battre et qui rendait pas mal, des labours et des semailles qui s'achevaient dans de bonnes conditions, du bois qu'ils couperaient aux premières heures de liberté, et des défrichements qu'ils entreprendraient au cours de l'hiver prochain. Miro s'était rassis, les rumeurs s'étaient tues, la conversation un instant tomba. Un silence se fit, puis 6 heures sonnèrent à la tour du vieux clocher, et vinrent ensuite les 3 tintements consécutifs et alternés de 3 coups chacun, annonçant la volée de l'Angélus du soir. Presque aussitôt, en effet, le lourd marteau d'airain battit à plein coup les pans de sa jupe de bronze, et une rafale de sons s'éparpillèrent en roulements pressés. Toujours assis sur son derrière, Miro frémit. Ses oreilles se soulevèrent et il secoua la tête à plusieurs reprises. Puis, levant le nez au ciel, il se mit à hurler à pleine gorge lui aussi, poussant jusqu'à épuisement sa plainte désespérée. « Tais-toi, mon petit, tais-toi, ce n'est rien !» voulut consoler Lisée. Mais à chaque bordée de son, il se reprenait de plus belle et le hurlement mourant se regonflait en sanglots pour finir en une petite plainte triste et désolée, comme un pleur d'enfant. « C'est drôle, » constata Lisée. Il n'avait pas encore pleuré en entendant les cloches. Il ne les avait peut-être jamais remarquées comme ce soir. Écoute comme l'air est calme. On n'entend que ça. On dirait que ça vous imbibe le crâne comme de l'eau qui entrerait dans une éponge. C'est une douche sonore, comprends. Et nos oreilles en sont comme ravinées par un torrent. Ça ne m'étonne pas que ça fasse mal à Miro. Tous les chiens pleurent en entendant les cloches. Mais ce n'est pas par sentiment religieux, ah, fichtre non. Ils s'en fichent pas mal des religions, eux. Et s'ils pleurent, c'est parce qu'ils souffrent. Heureusement, continua Lisée, qu'ils ne les entendent pas souvent. La moindre chose, la moindre odeur surtout, quelquefois le moindre spectacle, mais plus rarement, car chez eux l'oreille est meilleure que l'œil, arrivent à les en distraire. Il a fallu que nous ne disions rien, que l'air fût calme, qu'il ne vint de la cuisine aucun fumet de fricot, que rien dans notre attitude ni dans nos gestes ne l'intrigua, pour que ce pauvre Mimi ait écouté et entendu cette sonnerie de malheur, qui nous annonce d'ailleurs par surcroît la pluie pour demain peut-être, ou pour après-demain ou plus tard. Tant qu'ils sont jeunes, une seule sensation les accapare tout entier. Ce n'est que dans la suite, lorsqu'ils sont plus âgés, qu'ils arrivent à partager leur attention et, comme nous, à voir, entendre et renifler tout ensemble. Ce ne peut pas être, comme le croit la fémie, parce qu'ils pensent aux morts qu'ils se lamentent au son des cloches, puisqu'ils poussent les mêmes tristes hurlements, ou à peu près, en apercevant la pleine lune se lever derrière les arbres du mont de la côte. Mais peut-on savoir au juste la cause de ces cris? C'est bien difficile, vraiment, car nous ne pouvons entrer dans leur peau et peut-être qu'ils ne le savent pas eux-mêmes de façon précise. Toutefois, ce n'est dans aucun cas un cri de joie. Je crois, reprit Philomène, que le son des cloches doit leur faire mal aux oreilles ou au nez, et que c'est la marche de la lune dans les rameaux et son ascension dans les branches qui doit les épouvanter. Car, dans le premier cas, ils restent immobiles sur place, et dans le second, ils courent en hurlant, agités et inquiets. D'ailleurs, quand la lune est haut dans le ciel et qu'ils n'ont plus de point de repère pour contrôler sa marche, ils n'y font plus attention. J'ai remarqué aussi, dit Lisée, que ce sont surtout les chiens de garde qui aboient à la lune, tandis que ce sont les nôtres, les chiens de chasse, qui hurlent à la voix des cloches. « Ça ne m'étonne pas non plus, » expliqua Philomène. « Les chiens de garde, qui ne bougent guère autour de leur niche, sont plus que les autres sensibles à ce qui remue. Quant aux nôtres, ils ont le nez et l'oreille extrêmement délicats. D'ailleurs, l'oreille et le nez, ça doit communiquer par un canal. Quand le bruit des cloches, comme ce soir, est venu taper sur le tympan de Miro, ça a dû lui ébranler par contre-coup les membranes du nez et lui produire le même effet qu'une odeur de bête féroce, d'un loup par exemple, ou même aussi l'odeur d'un homme mort. Peut-être encore que ça lui a fait comme un pincement douloureux. Nous éternuons bien, nous autres, en regardant le soleil. Et nous ne le regardons pas pourtant avec notre nez. Heureusement, plaisanta Lisée, que lui n'éternue pas en nous regardant. Mon vieux, chacun de nous sur terre a quelque chose de bien. Les aigles, c'est leurs yeux. Les chiens, leur nez. Les lièvres, leurs oreilles. Et les femmes, pas leur intelligence, en tout cas. Tout de même, ce serait un sacré type que l'homme qui réunirait l'œil de l'aigle, le nez du chien et l'oreille du lièvre, à condition qu'il ait le cerveau en conséquence. Vain Dieu ! Nous vois-tu reniflant le long des tranchées ou aux brèches des murs de lisière pour trouver l'endroit où le lièvre a fait sa rentrée ? J'ai pourtant connu un type de Vélran qui le faisait. Il prétendait être au moins aussi malin que son chien. Et où l'autre trouvait du fret, il se foutait à quatre pattes lui aussi, fouinant, humant et reniflant, pour apprendre, disait-il. Mais on ne lui en a pas laissé le temps, car on a reconnu qu'il était louffe, et on a été obligé de l'emmener à l'asile de Dôle, où il est clapsé. On a même raconté dans le temps que ce serait un gardien de l'établissement qui lui aurait fait son affaire un jour qu'il avait soif. Ce gardien-là était alcoolique. Il se saoulait, il buvait tout ce qu'il gagnait, et comme il touchait 30 sous par macabée qu'il enterrait, il en zigouillait un de temps à autre pour avoir de quoi licher. En été, naturellement, il claquait un mec par jour au moins. Les bons docteurs disaient que c'était l'effet du chaud. On ne s'est aperçu de ce petit manège qu'au bout d'un assez long temps. Alors, pour étouffer l'affaire, le bonhomme de gardien est passé pensionnaire. Et voilà tout. Mais as-tu déjà purgé Miro ? Interrompit Philomène. Non, avoua Lisée, il se purge tout seul. Il ne passe pas un jour sans manger du chien dent. C'est très bon, en effet, mais ce n'est pas suffisant. À ta place, je craindrais pour lui la maladie. et il sera d'autant mieux tenu qu'il est plus âgé et de bonne race. Je sais bien, mais qu'y faire ? Il n'y a, tu l'as dit, pas grand-chose à tenter. Et souvent, les meilleures précautions ne servent de rien. Tout de même, à ta place, je lui ferai, de temps en temps, prendre un peu de fleur de soufre dans du lait ou du café noir. Ils arrivent très bien à avaler le tout. Le meilleur remède est encore qu'il soit fort et robuste. Mais celui-là non plus n'empêche rien, bien souvent. La soupe est trempée, vint annoncer la guélotte. La manges-tu avec nous, invita Lisée ? Merci bien, mon vieux, mais la bourgeoise m'attend. Ce sera pour une autre fois. Bonne nuit et à la revoyure. À revoir, mon vieux, répondit Lisée, secouant sa pipe et rentrant dans la cuisine, précédée de son chien. Il arriva ce que Philomène avait prédit et que Lisée craignait. Malgré les purges de café noir et de fleurs de soufre, un beau matin, à l'appel de son maître, au lieu de bondir en écartant sa paille des quatre pieds, Miro se leva lentement et avec hésitation. Ses bons yeux, si clairs et si vifs, étaient tristes et rouges, et du nez suintait une vague mucosité incolore, comme une salive trop épaisse. Nom de Dieu, ma chaîne Alizée, voilà que ça y est. Pourvu que ce ne soit pas trop grave et qu'il n'en crève pas. Miro mangea tout de même la moitié de sa terrine de soupe à laquelle le braconnier avait ajouté, pour la rendre meilleure, un peu de lait. Ensuite, il ne chercha point, comme d'ordinaire, à gagner la rue. Mais s'en vint lentement, le poil légèrement hérissé et rêche, se couchait en rond, derrière le poêle allumé de la chambre. Le lendemain, le nez coulait plus abondamment, les yeux devenaient chassieux et l'appétit disparaissait avec la fièvre qui l'avait envahi. Bien que la température fût douce, Miro grelottait. Le maître essaya de lui faire avaler de la fleur de soufre dans du lait. Le chien, presque à contre-cœur, but le lait, mais laissa au fond de l'assiette la poussière jaune. Alors Lisée chercha à se rappeler les vieux remèdes usités en pareilles circonstances. Il en connaissait plusieurs et commença par se rendre chez le cordonnier Julot qui lui prépara un emplâtre de pois. Revenu au logis, il rasa le derrière du crâne de Miro sous l'os pointu qui fait saillie au-dessus des vertèbres cervicales et appliqua l'emplâtre qui adhéra aussitôt. On dit que ça les guérit, avait reconnu Julot. En tout cas, c'est bien à ton service. Et si ça ne lui fait pas de bien, ça ne peut pas non plus lui faire grand mal. Mais la poix n'opéra guère. Miro maigrissait, souffrait, paraissait de plus en plus lent et triste. Son museau, toujours frais, devenait chaud. Sa langue, sèche. Il ventait, disait Lisée. C'est-à-dire respirait comme un soufflet violemment pressé. Et il avait toujours froid. De temps en temps, il se levait douloureusement de son sac de toile, venait poser ses pattes sur la platine du fourneau, le poitrail devant le feu. Et là, triste comme un petit enfant malade, il laissait pencher sa pauvre tête dolente de côté, tandis que ses yeux rouges, troubles et perdus, vaguait dans le vide, où fixait les choses sans les voir. Il eut des constipations opiniâtres, puis des diarrhées épuisantes, et passait presque toutes les heures immobile, couché en rond, serré sur lui-même, les muscles contractés par un perpétuel grelottement, les chines rugueuses, comme un petit vieux maniaque qui craint tout des hommes et des choses. Puis, ce fut la complète indifférence. Et rien ne pouvait le tirer de sa somnolence ou de son marasme. Mitis, Emout et la vieille Mique, le voyant affaissé et souffrant, n'essayaient point de jouer, mais venaient de temps à autre le flairer. Toutefois, comme il n'avait pas conservé sa bonne odeur de santé, il ne le léchait plus. Mais souvent, Il se couchait tout contre son poitrail pour le réchauffer. Lui les regardait de ses yeux d'où nulle lueur ne jaillissait et qui semblait désespéré. Il se taisait obstinément. C'est que son mal était en lui et que toute souffrance dont les bêtes ne voient pas la cause ou qui persiste, cette cause étant disparue, les laisse muettes. Qu'un chien ou un chat ou une autre bête domestique, car les sauvages, eux, savent presque toujours se taire, crient ou pleurent ou hurlent ou grondent quand on le heurte ou qu'on le frappe ou qu'on le brûle ou qu'on le mouille ou qu'on lui marche dessus, cela s'entend. Son cri est un appel, une plainte, un défi ou une lutte. Si la source de douleur disparaît, si la cause n'est plus apparente, il se tait. Tout le monde n'a pu voir mourir un chien empoisonné. Mais qui n'a vu de misérables animaux écrasés par des automobiles, des tramways ou des voitures? Ils hurlent épouvantablement sous le choc. Mais 5 minutes après, quand on les a ramassés, mis sur la paille, ils se lèchent s'ils le peuvent encore et souffrent et meurent sans se plaindre. Ils n'ont pas besoin, ceux-là, de philosophes pour leur enseigner le stoïcisme. Si grand que fut le désarroi physique et moral de Miro, il ne se plaignit jamais. Même le jour où la guélotte, qui n'avait point désarmé et souhaitait de tout cœur sa crevaison prochaine, profita d'une absence de Lysée pour le jeter brutalement dehors. Violemment, à coups de savate, elle te le balaya, comme elle disait, de son plancher, espérant qu'elle en serait, pour tout de bon, débarrassée bientôt. Il ne faisait pas froid ce jour-là, heureusement, et la rentrée du braconnier provoqua la rentrée du chien. Cependant, Lysée se désespérait. Il passait de longues heures à côté de son Miro, lui prenant la tête dans les mains, le caressant, le recouvrant d'un vieux tricot, le bordant comme un gosse, lui desserrant les mâchoires pour le contraindre à avaler quelques gorgées de lait ou quelques bouchées de viande que la pauvre bête, souvent, revomissait presque aussitôt. Mais ni soin, ni remède n'agissaient. Il n'y a rien à faire contre la maladie. La maladie, mot vague et indéfini, comme les troubles qu'elle provoque. D'où vient-elle? On ne sait pas. Comment la guérit-on? On ne sait pas non plus. Les vétérinaires, médicastres ou potards ont bien inventé des sirops, fabriqué des pilules, composé des poudres. Mais tout ça, c'est de la foutaise, dont le plus clair résultat est de faire passer les écus de votre profonde dans leur escarcelle. Autant croire sur ce point les paysans et les bracos qui se sont livrés au sujet de ce mal mystérieux aux suppositions les plus baroques, aux conjectures les plus bizarres. D'après les uns, ce serait un ver qui produirait ces troubles, un ver que nul n'a vu et qui tiendrait ces diaboliques assises non point dans l'estomac mais au bout de la queue. Il s'agit de l'extraire. De l'extraire sans danger pour la bête. Et là est le hic. Pour d'autres, la maladie, c'est le sang qui mue. Comment? Pourquoi? Mystère. Enfin, d'aucuns veulent encore que ce soit simplement de la bronchite. Mais affection de la moelle épinière, crise de croissance ou bronchite, nul n'a jamais été capable d'indiquer une cause précise, ni de fixer un remède. Miro filait un mauvais coton, semblait-il. Quand un jour, un vêlerant qui passait par là et qui le vit, conseilla à Lysée de le conduire immédiatement à son compatriote Calais, lequel était possesseur du secret pour guérir les chiens de la maladie. En ce moment, la peau de Miro présentait par endroits des taches roussâtres, se boutonnait, devenait pustuleuse et croûte levée. Tellement, disait la guélotte, que c'était une dégoûtation de garder une pareille charogne dans la chambre du poêle. Le vêlerant insista. Calais ne demandait rien pour sa peine. Il gardait le chien une huitaine, le soignait dans le plus grand mystère, et au bout de ce temps vous le rendait parfaitement guéri. C'était un secret qu'il tenait de son grand-père, lequel reboutait aussi les entorses et arrêtait les dartres, et qui se perpétuait dans la famille. Pas plus que les autres paysans qui connaissent d'autres secrets pour d'autres guérisons, pourvu qu'on ait la foi, ils ne consentaient à le confier à personne et ne demandaient pas qu'on lui amenât des bêtes, mais ils n'avaient jamais refusé d'en soigner une. Et, ceci faisait partie sans doute des règles à observer pour obtenir la guérison, ne voulaient jamais, jamais, en aucun cas, accepter d'argent comme rétribution. L'après-midi même, Lisée attela Caddy à la voiture de Philomène et conduisit Miro à Velleran. Il alla remiser le cheval dans l'écurie de Pépé, qui lui confirma les dires du voyageur. Et tous deux menèrent Miro chez le miraculeux guérisseur. Calais, paysan aisé et rieur, examina le chien, auquel il fit dresser aussitôt un petit matelas sous le poêle de la cuisine. Ensuite, il offrit la goutte aux deux visiteurs et parla de la pluie et du beau temps et des semailles et des engrais et de la politique. Étant bon catholique et pratiquant, il n'était pas d'accord avec Lisée. Mais ce n'était point une raison pour mal soigner Miro, qui, lui, n'était pas socialiste ni réactionnaire et n'avait pas, heureusement, d'opinion touchant la séparation des églises et de l'État. La discussion fut donc courtoise. On tomba d'accord sur un point. Que tous les députés et sénateurs, radicaux comme cléricaux, n'étaient que des menteurs et des fripouilles. Et sur cette conclusion qui marquait leur bon sens et leur rectitude d'esprit, on se sépara en se serrant la main. « Tu viendras le chercher dans 9 jours, fixa Calais. Et tu n'auras pas besoin de prendre une voiture pour l'emmener. Il pourra marcher tout seul, je te le promets. » Lisée, plein de craintes et d'espérances, retourna à Longeverne, où la semaine lui parut démesurément longue. Soit que l'éruption cutanée eût été un heureux dérivatif, soit en effet que le remède de Calais fût vraiment souverain. Au bout de la 8aine, Miro était guéri. Il se levait, marchait, mangeait. L'œil redevenait limpide, vif et joyeux. Le poil se relustrait, l'appétit reprenait. Tu n'as qu'à lui faire boulotter de bonnes soupes. Et avant 15 jours, il sera gras comme un cochon, affirma Calais à Lisée et à Pépé. À propos, comment va Cafo ? S'inquiéta ce dernier. Tu ne m'as jamais reparlé de ton goré. Il va bien, très bien, comme un bon siam qu'il est. Pourvu qu'il bouffe, il est content. Cependant, je ne crois pas que Miro sympathise jamais avec lui. Ah ? Oui, la première fois que le chien s'est approché de l'auge où il barbotait pour le flairer, il lui a pouffé et reniflé au nez comme un grossier qu'il est. Et Miro, qui est une bête polie, ne lui pardonnera pas de sitôt. Après tout, ça n'a pas d'importance. Mais nous allons boire 1 litre. Calais, mon vieux, je sais que tu n'accepterais pas 2 sous. Et je t'en offre pas. Mais ma parole, tu viens de me rendre un sacré service. Tu ne peux pas refuser de trinquer avec nous à l'auberge. Malgré que nous ne soyons pas en politique du même bord, ça n'empêche que tu es un bon bougre et que je serais vexée si tu n'entrais pas prendre un verre et revoir ton malade quand tu passeras à Longeverne.
C'est rien, affirmait Calais. C'est des petits services qu'on se doit entre pays. On s'en fut à l'auberge où, la politique aidant, d'un litre, on en but plusieurs. Ensuite de quoi, Pépé voulut qu'on allât chez lui goûter sa vendange. Et puis Calais exigea qu'on fît une 3e pause dans sa maison pour juger de la qualité de la sienne. Si bien que ce ne fut qu'assez tard que les 3 compères, parfaitement d'accord, et amis comme cochons, se séparèrent, sous comme des Polonais. La joie entrait, disons-le, tout de suite à sa décharge, pour une bonne part, dans la cuite magistrale de Lisée. À Longeverne, cependant, la guélotte, anxieuse, énervée comme au premier soir, attendait le retour de son homme, espérant bien que le chien, nonobstant remèdes et sorcelleries, serait enfin crevé. Elle pâlit de mal rage en voyant absolument comme l'autre fois. Son mari, plein comme un boudin, ramené plus gaillard que jamais, le petit chien qui, affamé par la marche, vint sans tarder flairer toutes les gamelles et toutes les marmites de la cuisine. « Tas de cochons » mâchonna-t-elle. « Ah, ce qui ne vaut rien, ne risque rien. Je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. » Et, sans rien ajouter, sombrement rageuse, laissant l'homme et le chien se débrouiller comme ils l'entendraient, elle monta seule se coucher à la chambre du dessus. Lisée, pour se venger, prépara aussitôt à Miro une soupe plantureuse et magnifique, dans la confection de laquelle il ne ménagea ni la graisse ni le pain. Puis, jugeant que pour un convalescent ce n'était peut-être pas suffisant, il ouvrit le buffet où il découvrit un bout de lard d'une bonne demi-livre, mis en réserve par sa femme pour le repas du lendemain. « Tiens !» s'exclama-t-il en le jetant à Miro. « Mange-le, mon petit. Ça lui apprendra à la vieille à faire la gueule. C'est elle qui fera maigre demain. »